j'ai compris que c'était mort. Enfin, j'allais pas retourner à Paris à la Défense dans une grande tour. C'est mort. Enfin, je préfère faire pousser des salades en Thaïlande et je serais heureux. Non, mais tu vois. Quand tu dédies un mois, c'est tous les jours, hein, c'est 7 jours par semaine, de 5h30 du mat à 8h du soir, en général, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Je l'utilise vraiment comme un outil genre d'exploration, de fun et de croissance au niveau physique, mental et même un peu spirituel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, discussion d'ingénieur avec Augustin, qui est ingénieur centralien, vivant à Sydney, travaillant dans l'analyse financière et qui, en parallèle, s'est pris de passion pour le yoga. Alors, cette discussion, elle est particulièrement intéressante pour trois raisons. Numéro 1, Augustin, il a des expériences extrêmement atypiques qui pourtant lui ont été extrêmement utiles dans sa recherche d'emploi et dans sa carrière. Il a, par exemple, fait une année sabbatique et a aussi vendu des parfums pendant 6 mois en Australie. Numéro 2, on va parler d'analyse financière. Concrètement, un ingénieur en analyse financière, ça fait quoi? Et numéro 3, on va parler d'équilibre de vie avec la pratique du yoga, qui est quelque chose de tout à fait non traditionnel après une grande école d'ingénieur, mais qui est la passion d'Augustin et il va nous raconter sa perspective rationnelle ingénieur sur le sujet. Bref, une discussion intéressante et agréable avec Augustin. Un grand merci à lui. Comme d'habitude, je compte sur vous pour être le plus sympa, le plus bienveillant possible dans les commentaires, mais c'est toujours un plaisir de vous lire. Bref, vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieur. Je vous remercie de votre écoute et on est parti pour cette discussion avec Augustin.
J'ai fait mon stage de fin d'études à Paris. Et direct après, je suis parti donc faire mon année sabbatique en Asie, où là, j'ai pris un an pour... c'était moitié humanitaire, moitié backpack, découverte, voyage, tout ça.
Genre, c'était Asie, tu viens de dire, c'est pas que Australie, en fait, t'es parti où?
Ouais, un an, j'ai fait 10 mois en Asie.
Ouais.
J'ai fait Indonésie, Thaïlande, Laos, Inde. Et donc, à chaque fois, c'était ça alternait entre projets humanitaires et genre des trucs. Je passais une semaine chez des moines, méditer toute la journée. J'ai travaillé avec des éléphants. Enfin, genre, on a fait des backpacks et des randos dans tous les sens. Et j'ai aussi découvert le yoga. Et du coup, j'ai pris ce mois pour devenir prof de yoga, qui a eu pas mal d'impact par la suite. Donc, j'ai fait cette année qui était incroyable en Asie. Et le plan de base, c'était un peu de faire cette année, de retourner à Paris. Mais plus j'avançais dans l'année, plus j'ai compris que c'était mort. Enfin, j'allais pas retourner à Paris à la Défense dans une grande tour. C'est mort. Enfin, je préfère faire pousser des salades en Thaïlande et je serais heureux. Non, mais tu vois, c'était un peu le type de mindset. Mais je disais, bon, il faut quand même que je bosse sur ma carrière, mais j'ai envie de garder ce côté aventure et découverte et tout ça. Et du coup, l'Australie n'était pas très loin. J'avais lu plein de trucs qui avaient l'air incroyables et qui avaient l'air de bien matcher avec ce que je voulais. Tu vois, le lifestyle, la work-life balance, le fait que c'était tout simplement pas l'Europe. Donc ça m'excitait aussi. Et du coup, ouais, j'ai fait un an en Australie un peu pour, avec le Working Holiday Visa. Un peu pour...
Qui est un visa qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, pour les auditeurs, c'est un visa d'un an qui permet de voyager en Australie et de travailler jusqu'à 6 mois pour les employeurs. Donc c'est parfait pour venir, gagner un peu d'argent, continuer à voyager, gagner d'ailleurs pas mal d'argent potentiellement pour pouvoir... Parce qu'en Australie, on gagne bien même en étant backpacker. Et ensuite pouvoir revoyager si on souhaite ou voyager à l'intérieur du pays.
Ouais. Donc c'est une façon super simple de te faire un an là-bas. Et c'était mes calculs. Donc je vais faire un an, j'ai fait des sales. Je t'ai raconté, j'ai vendu des parfums dans la rue. Enfin, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé.
C'est quoi le job qui t'a le plus marqué que t'as fait à ce moment-là?
Ouais, c'est les parfums dans la rue.
Tu faisais quoi alors?
Donc j'étais sales team leader. Enfin, j'ai commencé genre juste sales.
Vendeur.
Vendeur.
Et t'es arrivé dans la rue avec un parfum pour...
Un peu. En fait, on avait un groupe... Enfin, notre compagnie avait des stalls, c'est-à-dire des stands dans des shopping centers. Et à chaque semaine, ça tourne. Et c'est un stand temporaire où tu fais ton petit stand avec tous tes parfums et tu pitches toute la journée. Et c'est genre, c'est à peu près à l'opposé du table d'ingénieur. Quoi. Le table d'ingénieur, c'est que tu vas te concentrer sur des choses, des Excel, des files, tu fais tout parfait, tu ne parles pas trop. Tu fais ton file et après, tu le présentes. Donc, c'est la partie présentation, mais c'est en gros, c'est toi qui travailles sur les choses. Là, c'est genre l'opposé. Tu dois travailler sur toi-même, tu dois comprendre les gens, comment tu fais un pitch, comment tu closes et apprendre à te prendre des noms et des noms et des noms et des noms. Et ça j'avais pas l'habitude, quoi. Parce que tu pitches, tu dois pitcher peut-être 100 personnes. Sur les 100 personnes, s'il y en a 10 qui t'achètent, c'est vraiment cool. Mais ça fait quand même 90% de non, tu vois. Et d'ailleurs, et du coup, on avait plein de training là-dessus. Comment tu fais pour en fait, à chaque fois que tu as un non, être plus excité? Enfin, parce que tu sais que tu as tes KPIs et tes sortes de stats et tu sais très bien que plus tu as de non, plus tu te rapproches d'un oui. C'est un peu biaisé comme façon de voir les choses, mais ça t'aide en fait à te...
C'est en partie vrai.
C'est en partie vrai, c'est le law of average, mais... Donc, et puis comment tu vends, comment tu le eye contact quoi, c'est super. Enfin, c'est un truc qui est assez flippant, surtout en tant que français, surtout en tant qu'ingé. Et même le body language et comment tu. Puis moi, je sais pas, j'avais un master, j'étais en mode merde. Je vends des parfums, je me fais 5 dollars par sac. Enfin. Mais bon, bref, j'ai fait 6 mois de ça. Donc j'ai fait peut-être 2 mois où j'apprenais juste les techniques de vente, comment juste être bon vendeur, ce qui franchement était pas facile du tout. Et après, j'ai commencé à avoir des bons résultats. Et donc à partir de ce moment-là, tu peux commencer à recruter ta team. Pareil, dans les shopping centers, je vois des gars, t'entends, au lieu de leur vendre des parfums, je leur dis, t'as un taf? Oui, non. Est-ce que t'es motivé pour apprendre, machin et tout? Ou sur les réseaux sociaux, enfin, tu te débrouilles, tu fais ton
truc. Tu veux un parfum? Non, tu veux un taf? Oui, travaille pas, Tom.
Bien. Et ça, c'était aussi un autre truc, parce que bien sûr, il faut faire les interviews, puis après, il faut les former. Mais c'est ton temps à toi que tu passes à former, donc il faut que ce soit sûr que ce soit un bon fit. Il faut que le gars ait envie de bosser. Il faut qu'il réussisse, surtout. Donc, ouais, pendant les 4 mois d'après, j'ai fait ça, quoi. C'était du, donc, un peu de recrutement, du team building et tout ça. Et continuer à vendre mes parfums aussi. Donc ça c'était un truc vraiment marquant, quoi. Parce que j'aurais jamais de ma vie pensé que j'aurais fait un truc comme ça. Mais pour dire, c'est peut-être le travail où j'ai le plus appris, quoi. Et qui m'a le plus servi après dans toutes les interviews, dans toutes mes communications, dans tous les rapports humains, quoi. J'ai encore ces petits trucs. Je dirais pas de vendeur, mais genre cette espèce de confiance que j'avais pas du tout avant. Qui m'a permis de m'en sortir dans plein de situations. Donc ça, c'était fort. Et du coup, après, pour revenir, j'étais en mode, bon, Sydney, j'adore, j'ai envie de rester. Et du coup, effectivement, après, j'ai trouvé un visa et un travail chez Grant Thornton, où là, j'ai fait 4 ans de corporate finance et d'audit.
Mais avant de trouver ce visa, ça, on s'en souvient, on était là ensemble à l'époque, c'était déjà il y a 7 ans.
Ouais, 7 ans.
C'était galère, c'était même une galère... immense. On s'est rencontrés, si je ne m'abuse, à un événement central, ouais. Des différentes écoles centrales sur Sydney, auquel déjà tu venais, donc ça veut dire que tu es allé aux événements networking. Qu'est-ce que tu as fait d'autre à l'époque, enfin, pourquoi est-ce que c'était dur à l'époque de pouvoir trouver un job en Australie? Tu as l'air d'en avoir trouvé un rapidement en vendant des parfums. Pourquoi est-ce qu'un job d'ingénieur, on n'en trouve pas aussi un facilement? Et après, comment ça s'est passé pour toi?
Alors, le taf de parfum, c'est un peu à part. C'était en mode n'importe qui peut avoir ce boulot, en gros. C'était un visa de travail. Ils prennent, en fait.
Parce oui, que mais pourquoi est-ce qu'un ingénieur ne pourrait pas faire ça? Dans l'autre sens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un boulot d'ingénieur comme ça en Australie? Moi, je le sais, mais les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas forcément que...
Donc, tu veux dire le boulot en corporate finance?
Ouais.
Ou le...
soit d'ingénieur, soit de corporate finance. Après, tu vas me dire pourquoi tu as fait...
Vraiment, le truc qui était difficile à négocier, c'est que déjà, quand tu demandes un visa, ça veut dire que tu demandes plus que n'importe quelle autre personne à Sydney. N'importe quel Australien ou quelqu'un avec la permanent residency ou même qui est un citoyen. Tu demandes plus parce qu'il faut faire de la paperasse administrative, parce que ça coûte un peu d'argent et que si à un moment donné tu veux partir, c'est pas aussi simple parce qu'ils ont ton visa. Donc en fait, déjà tu as ce côté-là qui, rien que de demander un visa, t'es au-dessus de. Enfin, tu demandes plus que la moyenne des autres. Donc il y a ça.
Donc il faut forcément que tu proposes plus en fait en échange à côté. Donc c'est plus dur.
Et comment tu proposes plus quand t'es. Là, c'était entry level, tu vois, vraiment, c'était le niveau junior, quoi. Donc comment tu proposes plus quand t'es un junior? Soit t'as fait une superbe école.
Mais ils connaissent ce
que j'ai fait, mais ils connaissent absolument pas. Ils aimaient bien que j'ai fait un master, mais c'était la seule chose qu'ils comprenaient. Puis en plus, c'était ingé, c'était pas finance, donc bien, mais un peu OK. Et quelque chose qui valorise aussi ici, c'est l'expérience, quoi. L'expérience soit en Europe, mais encore mieux si tu en as en Australie. Et moi, j'avais 6 mois de parfum dans la rue. Donc encore une fois, expérience incroyable, ils valorisaient ça, mais pour mettre au-dessus et leur dire, maintenant, il faut me sponsoriser, me donner le visa. Ça a été dur parce que j'avais pas grand chose à vendre. À part,
tu voulais déjà faire de la corporate finance à l'époque?
Ouais.
Qu'est-ce qui te plaisait plus? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu es sorti d'un master en ingénierie et que tu t'es dit je vais faire de la corporate finance? C'était par rapport à tes stages d'avant?
Ouais, donc j'avais fait 6 mois chez Mazars à la Défense, déjà en corporate finance. Parce que je savais que l'ingénierie, vraiment de base, je vais faire les arts. Donc pendant presque 2 ans de prépa, je me suis dit je vais faire les arts et métiers. Et genre, un mois avant de passer les concours, je me suis dit mais en fait, c'est genre l'industrie et tout, c'est pas mon truc. Donc, j'ai bifurqué vers Centrale Supélec parce que c'était plus technologie et tout ça. Mais je savais que je voulais pousser à ça encore plus et aller vers le conseil plus que l'ingénierie. Donc, j'avais postulé à plusieurs trucs pour mon stage de fin d'études, tout en conseil, soit conseil type management, soit plus finance. Et j'ai eu, pour une raison ou pour une autre, ce truc en TS, donc en conseil en finance.
Ouais.
qui m'a super plu. Enfin, les formats d'émissions, les gens, le travail même en lui-même, c'était quelque chose qui m'avait bien plu. Du coup, je vais garder ça.
Ouais. Et pour arriver à décrocher ce travail en finance, donc en conseil financier, qu'est-ce que tu as dû faire à ce moment-là? Parce que tu es dans un endroit où tu connais personne. Ouais. L'école, elle vaut rien. T'as un master, ce qui vaut quelque chose. Ouais. Mais c'est pas forcément dans le même domaine. Comment ça se passe alors?
Je pense que j'ai eu une plutôt bonne approche. J'ai networké en fait. Je suis allé à tous les alumni que je pouvais avoir. Donc il y avait Centrale Supélec, il y avait d'autres choses aussi. Tu sais, la FACHI, la Chambre de commerce française en Australie. Il y a plein d'événements où tu peux faire du network comme ça. Et donc en allant à ces événements-là, tu rencontres aussi d'autres gens qui te recommandent vers d'autres gens. Tu dis, je connais cette personne qui est dans cette boîte. Et donc c'était café sur café sur café. Parce que je savais très bien que si j'allais à la voie normale, c'est-à-dire que j'allais sur le website et que j'appliquais de moi-même, ça n'allait pas marcher. Mmh. Donc il fallait que j'aille voir quelqu'un, lui dise, c'est moi, c'est ma life, je suis prêt, pour qu'après il me réfère et qu'au moins je commence les interviews.
C'est lui, donc là, ça a été beaucoup. C'est l'ingénieur, il est super sympa. D'ailleurs, il vend des bons parfums, mais il cherche un job.
Ah, t'as voyagé un an en Asie, t'as vendu des parfums, et maintenant tu fais la finance. Ouais. Mais c'est tout sur la confiance. Et je pense la façon dont tu présentes ton parcours et pourquoi t'as fait ces choses-là. Bah, en fait, c'est si t'arrives à faire un beau package, expliquer pourquoi t'as fait tout ça. Bah, j'avais des offres de boulot permanent à Paris. J'en avais deux, de belles boîtes. J'ai dit non parce que je voulais voyager, quoi. Et après, j'ai pas voulu revenir parce que j'ai voulu m'installer ici. Et maintenant, je veux faire de la corporate finance. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce que je voulais. Donc, ça changera pas. Voilà. Donc, j'avais une certaine détermination. Tu sais, j'étais vraiment en full développement personnel, Tony Robbins, ces trucs-là. J'y vais, je bosse.
Mais c'était dur jusqu'au bout. Hein, c'était pas.
Ah ouais, ouais. Bah, deux semaines. Bah, j'ai cherché pendant plusieurs mois. J'ai eu au moins 30 interviews, quoi. Et à chaque fois, c'était on t'adore, t'as l'air fou. Mais t'as pas d'expérience et visa, ça va pas être possible. Donc ouais, j'ai fait café sur café, interview sur interview, et je crois deux semaines avant que mon visa expire, ce qui commençait à être vraiment chaud, quoi. J'ai eu un appel de la HR, donc à GT, et après on a fait l'interview, et elle a dit ok, go. Et ouais, c'est comme ça que j'ai eu le boulot. Mais j'étais rodé sur absolument toutes les questions que tu peux poser en entretien, quoi. Sur tous les trucs, les petites zones d'ombre et les machins, parce qu'à chaque fois je demandais du feedback, j'avais plutôt une bonne approche. Donc j'étais super rodé sur toutes ces questions-là. Et donc ouais, ça a fini par marcher.
Il y a un truc qui a fait la différence pour le dernier, ou c'était plutôt de la chance? Qu'est-ce qui a fait que Grant Thornton t'a embauché et t'a proposé un visa?
Il y avait deux choses. Il y avait le fait que je pense que j'ai vraiment, vraiment bien géré les interviews, dans le sens où j'avais 6 mois de parfum. Donc niveau confiance, niveau confiance et body language, eye contact, j'étais pour quelqu'un qui a plaque pour une position junior, c'était déjà vraiment bien, je pense. Donc je pense impec sur les interviews et toutes ces questions-là. Et il y a aussi, j'avais pris un café donc avec un partenaire de là-bas, un Français, qui aussi m'a référé dans le sens où il connaissait mon diplôme, il m'avait vu à quelques events. Et il a dit, lui, il a un bon diplôme, il est correct, prenez-le en interview. Les interviews sont très bien passées, donc je pense que ces deux choses-là ont fait que... ils m'ont offert un job et un visa.
Ça, c'est cool. C'est bien de voir quand même que la référence, au final, même si le diplôme ne vaut rien ici, via les réseaux français qui connaissent la valeur d'un diplôme et de ce que tu peux avoir fait pour... Parce que les écoles... d'ingénieur, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça demande beaucoup de travail et d'efforts en France, donc ça vaut quelque chose. Quoi.
Ouais. Et là, le partenaire, effectivement, connaissait cette école, même s'il n'a pas, d'impact quand il dit ça au HR, c'est quand même c'est bon, il a un bon profit. Quoi. Donc ça a aidé quand même d'une certaine
façon. Bien sûr.
Sachant que j'avais besoin d'aide, quoi, parce que, encore une fois, ingénieur sans expérience qui applique en finance... pour pouvoir le justifier.
Qu'est-ce que tu faisais en finance, justement?
Donc, j'ai fait un an de corporate finance. Donc, c'était du transaction services. En gros, c'est des due diligence. C'est-à-dire tu...
En français, ça serait...
Je crois que tu dis due deal en français.
Due diligence, ouais. Tu étudies des entreprises qui vont soit être vendues, soit être achetées.
C'est ça, oui. Due deal, c'est un des process de la M&A. La M&A, c'est depuis le moment où un acheteur se dit j'ai envie d'acheter jusqu'au moment où il achète. Le TS intervient au moment où il a envie de savoir si l'entreprise, comment l'entreprise va. Donc en fait, tu fais une certaine forme d'audit, un peu modifié. T'as pas toutes les règles comptables et tout ça, mais tu fais une sorte d'audit
financier
pour, en gros, savoir si l'entreprise vaut bien 5, 10, 50 millions. T'as pas le droit de dire ça vaut 50 millions, mais tu peux donner toutes les infos et toutes les clés à celui qui veut acheter ou vendre pour dire effectivement. C'est une sorte de full check-up financier. Un peu comme un audit, mais avec des règles un peu différentes.
C'est un peu comme si tu avais un sportif qui voulait se faire recruter par un club et qui dit bah, nos médecins vont vérifier qu'il va bien. Tu fais tous les tests avec les médecins et ils arrivent et ils disent bon, il est en bonne santé, je ne pourrais pas vous dire qu'il va marquer des buts, mais en tout cas, tout check. Ouais. Et vous, c'est pour ça, mais au niveau financier d'une entreprise.
Ouais, en gros, c'est ça. Donc, ça, c'est des missions assez intenses, c'est des missions assez courtes parce que ceux qui veulent acheter ou vendre, ils veulent acheter ou vendre tout de suite. Tu n'as pas 3 mois pour faire le truc. Et c'est assez. C'est pas répétitif dans le sens où chaque business est différent et à chaque fois tu as des problématiques différentes, mais à chaque fois ce que tu rends, c'est des PNL, des balance sheets.
Et tu utilises quoi pour faire ça? C'est tout sous Excel ou il y a d'autres outils?
Tout était sous Excel. Ouais. Parce que donc, GT, c'est des mid-cap, c'est-à-dire que c'est pas des boîtes énormes, donc on n'a pas nécessairement besoin de. En gros, Excel est suffisant. Ouais.
C'est pas suffisant, mais il faut être très bon en Excel quand même.
Ouais, il faut être bon et rapide. Pas aussi bon qu'ils pouvaient faire. Il y avait une équipe modeling, alors eux, c'était vraiment des gourous. Il faut être solide, il faut être bon, mais t'as pas à être un génie non plus en Excel. Donc c'était vraiment Excel et PowerPoint. Ça, c'était des outils qu'on utilisait. Donc j'ai fait ça pendant un an. Donc encore une fois, mission assez courte, c'est assez intense, ça va être pas mal de late nights.
C'était quoi tes horaires par exemple concrètement?
Moi, j'étais vraiment le plus junior de l'équipe. On avait une équipe de 10, j'étais le plus junior. Donc, il y avait des moments où je ne pouvais plus trop contribuer. Tu vois. Mais,
je croyais que tu allais me dire l'inverse. Je pensais que tu allais me dire, donc je travaillais comme un
fou. Donc, je travaillais comme un malade. Non, parce que non, c'était vraiment une équipe senior. Quoi. Il y avait deux partenaires, deux senior managers, deux managers et une senior qui avait déjà 4 ans d'audit et 3 ans de corporate finance. Et moi, le petit nouveau qui avait 6 mois de parfum. Je vais l'utiliser...
Ouais.
En leitmotiv. Donc du coup, c'était... Je veux dire, pour l'Australie, c'était des horaires lourdes.
Tu finissais vers 9-10 heures, quoi, grosso modo?
Non, franchement, non. Après quelques soirs sur des grosses missions, ouais. Mais moi, en tant que junior, j'ai très rarement fini à ces heures-là, quoi.
Okay.
Et en plus, je venais de la France. Hein. France, Mazar, bas de gamme, c'est 9 heures... 9h-19h, 9h-20h, quoi. C'est le standard. Ouais. Donc, en Australie, je faisais à peu près ça, mais c'était gros horaire. Et après, quelques, effectivement, nuits où là, on va passer ouais, la soirée là-dessus. Mais franchement, pas tant que ça.
Okay.
Et donc, après 3 ans d'audit, donc j'ai recommencé...
Financier toujours?
Ouais, financier. Donc là, j'ai recommencé à un niveau quasiment junior aussi. Donc, ouais, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Tu veux que
non, mais c'est, raconter c'est, mon parcours c'est en fait ce qui est intéressant dans ton parcours, notamment. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais il y a un angle qui m'intéresse particulièrement là, c'est le fait que tu as commencé dans la finance, dans ce que tu nous as expliqué, les transaction services. Tu as fait ensuite de l'audit financier pendant 3 ans. Maintenant, tu es en business.
Commercial finance.
Commercial finance, du côté entreprise. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été utiles de ta formation d'ingénieur là-dedans quand même? Parce qu'on peut se dire, attends, pourquoi tu as fait un master en ingénierie si tu l'utilises rien? Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu utilises au jour le jour, que ce soit au départ ou même maintenant?
Bon, bah, toutes les connaissances techniques, hein, on a étudié les centrales nucléaires, les machins et tout ça, pas franchement, je n'utilise pas ça du tout. Après, on avait fait pas mal d'IT à Supélec et j'avais des clients IT aussi. Donc ça m'a aidé, mais c'était plus pour avoir un bon contact avec le client. En mode, ils commençaient à me parler d'un truc, ils disent non, mais ça, tu vas rien comprendre. Je dis non, si, je comprends. Et du coup, ils sont là, ah, cool. Donc, c'est un consultant, mais qui en plus comprend notre business. Donc, c'était bien pour le côté client, c'est bien pour comprendre encore mieux comment l'entreprise fonctionne, mais en gros, toutes ces connaissances techniques m'ont pas franchement aidé. Après, finance, corporate, audit ou commercial finance, c'est beaucoup de chiffres. C'est analyser logiquement toute cette data, la présenter d'une façon claire et logique. Et ça, je pense que ça regroupe un peu le mindset d'ingénieur où tu apprends des choses vraiment très techniques, très poussées. Tu as une certaine méthodologie pour arriver là. Et j'ai du coup, la méthodologie de travail est relativement similaire. Plus le fait d'avoir un sens des chiffres, tu vois, quand tu as fait des équations, des maths dans tous les sens, et que tu viens en commercial finance où tu as des choses assez simples, enfin, ça te met au-dessus de pas mal de personnes.
Ouais. Ouais.
Dans le sens où tu comprends les chiffres, c'est pas compliqué et ça aide. Ouais.
Et t'es content du choix au final que t'as fait à la fois des études et à la fois d'avoir fait ça ensuite
Ouais, j'ai jamais questionné ce choix-là. Je savais que la pure ingénierie, ça allait pas m'amuser tant que ça. Même s'il y a des gens qui s'amusent dedans et c'est fantastique, mais moi il me fallait un côté avec un peu plus de business. Ils disent souvent qu'il y a des personnes qui sont orientées task, des personnes qui sont orientées people. Et moi, je pense que je suis plus people que task. Ce qui fait qu'avoir ce côté consultant, chiffres, commercial finance, c'est quelque chose où tu es plus proche de ton client et plus peut-être proche de ton équipe. Et c'est quelque chose qui me plaît. Et, ouais. Et comprendre la finance d'une entreprise, c'est génial parce que une fois que tu as compris vraiment où va l'argent, où c'est dépensé et comment c'est investi et tout ça, bah en fait, tu as compris 90% du business. Quoi. Donc, c'est une bonne façon aussi de comprendre des business et se mettre là-dedans.
Je trouve l'expression française, d'ailleurs, et j'y pense juste à l'instant, c'est santé financière. Et ça va bien avec le parallèle qu'on a fait tout à l'heure aussi avec le médecin qui va regarder quelqu'un et qui va te dire derrière, bon, bah, le sportif, il est bon. Là, c'est la même chose. Tu te dis, je comprends comment ça marche, je comprends 90% de comment l'entreprise marche. Bah, c'est ça, tu fais le bilan de la santé financière de l'entreprise et à partir de là, tu comprends comment ça marche.
Et tu comprends son business, comment elle est financée, le cash-in, cash-out et tout ça. Donc ouais, c'est un côté super, super intéressant. Quoi.
Donc, tu es épanoui ici, tu es épanoui dans ton travail. Quelque chose qui résonne particulièrement, c'est l'équilibre de vie, le fait de faire attention à soi pour aussi, d'un côté, bien sûr, être plus performant au travail, mais pas seulement. Mm-hmm. Le but de la vie, c'est pas que de travailler, c'est aussi de prendre soin, enfin, d'avoir une vie intéressante et belle, en tout cas.
Ouais.
Enfin, personnellement, c'est le choix que j'ai fait en venant d'Australie. Et t'as un équilibre de vie qui est assez particulier. On surfe tous les deux, mais le surf, qui pour moi va être potentiellement mon activité principale, mon sport principal, ce que j'adore le plus faire depuis que je suis ici. Toi, tu as le yoga, dont on a reparlé au début tout à l'heure. Tu as dit que tu as été en Inde, tu es devenu prof de yoga en un mois. Mmh. Je te reposais une question là-dessus. D'ailleurs, parce que je me pose la question, comment on devient prof de yoga en un mois? Mais on va y revenir dans un instant. Et pour toi, c'est à la fois surf et yoga.
Ouais.
Et je sais que c'est une partie importante de ta vie, donc je vais te poser des questions là-dessus. Peut-être que je vais recommencer sur le tout début, sur quand tu as fait ton prof de yoga en un mois. Comment tu as pu devenir prof en un mois? Comment ça se passe en pratique? Ils t'ont fait un truc intensif de 10 heures par jour pendant un mois et c'était bon?
12-14 heures, ouais.
Lundi comment tu t'es retrouvé là-dedans? Enfin, tu te retrouves pas dans une formation de prof de yoga par hasard? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah non, c'était pas par hasard. Ben, en fait, un des les 10 mois là qu'on a fait en Asie, le but c'était moitié humanitaire, donc un peu de give back. Toi, je trouvais que j'avais de la chance, j'avais fait une belle école, enfin, ma santé ça allait bien, ma famille ça allait bien, donc j'étais en mode bon, prends 6 mois pour donner un peu aux gens.
Et tu faisais quoi concrètement? Tu construisais, enfin, il y a Habitat for Humanity qui fait des maisons, c'était ça? Ça n'a rien à voir.
Fait genre prof d'anglais.
Ok.
Donc à Bali et en Inde.
Ah ouais, ouais.
En Inde, c'est une sacrée expérience de prof d'anglais là-bas. Et on a aussi travaillé avec des enfants handicapés en Thaïlande.
Ok.
Donc on a fait ça. Et la deuxième partie, c'était pas d'être en vacances, de faire des soirées, même si on a fait pas mal de soirées et tout ça. Mais c'était vraiment de découvrir l'Asie, et voilà, donc de découvrir la culture, l'histoire, les gens, c'est-à-dire prendre toute la nourriture spicy. Enfin, en fait, essayer d'être au maximum dans cette culture et de découvrir un maximum dans cette culture. Et une des petites boxes à tiquer, c'était de faire du yoga. Parce que si tu passes 10 mois en Asie et que tu n'as pas fait un cours de yoga, c'est un peu comme si tu avais fait 10 mois en Asie et que tu n'as jamais mangé de bouffe épicée. Tu as loupé un truc. Quoi. Et donc, moi, j'ai toujours fait énormément de sport, genre tennis, foot, machin. J'ai toujours été, et je me suis toujours dit que le yoga, ça va me faire marrer en Asie. Je vais prendre ma petite photo et puis voilà, box tiquée. Ouvert d'esprit, tout ça. Et en fait, non, j'ai pris une énorme claque. Je me suis retrouvé en Thaïlande, dans un coin complètement perdu. Et j'avais deux cours de yoga par semaine. Et en même temps, je travaillais avec des enfants handicapés et je donnais un coup de main dans les jardins, tout ça. Et dans ce contexte-là, j'ai pris une énorme... Enfin, une claque, mais une belle claque, quoi. J'ai eu un petit aperçu, un petit flash de ce que c'est, tu vois. Et pour moi, c'était, bon, bah, c'est pour les femmes déprimées de 40 ans qui allaient se faire leur yoga. Ça leur permettait d'aller mieux. Et non, j'ai vraiment compris qu'il y avait un truc incroyable à prendre. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, en Inde, au lieu de faire un mois de plus de backpack, je vais me faire cette formation pour être prof. Parce que j'ai senti que si j'en fais pas plus que ça, je vais pas le garder, en gros.
D'accord.
Ou ça n'aura pas réellement d'impact sur moi. Donc, je me suis dit, bon, ben, plutôt que de faire un mois de backpack, je vais foncer, faire devenir prof. Comme ça, au moins, genre, je vais comprendre vraiment ce que c'est. Et après, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire avec ça, mais je me dis, bon, bah, au moins... Et puis, genre, même devenir prof de yoga, c'était tellement opposé à l'image que j'avais de moi-même que je me dis, c'est cool. Puis, de toute façon, je fais un an en Asie, donc autant se marrer, quoi.
Ça fait une belle ligne à raconter. Au pire, tu reviens. Ouais. T'as fait quoi quand t'es là-bas? Je suis devenu prof de yoga.
Ouais, c'est ça. C'est, au moins, t'as pas perdu ton temps. Et donc, ouais, très rapidement, pour avoir le diplôme, il faut que t'aies passé 200 heures qui sont accréditées par différents organismes. Et t'as Yoga Alliance, qui est un gros organisme. Et t'as 200 heures qui sont en gros coupées, moitié pratique, moitié théorie, et qui te donnent une sorte de view 360 de qu'est-ce que c'est le yoga, d'où ça vient, l'histoire, la culture. T'as des choses avec la médecine aussi, l'ayurvédique. Bien sûr, qu'elles sont genre les poses, les enchaînements, les flows, tous tes alignements, comment tu fais déjà pour pratiquer sans te blesser, comment tu fais pour enseigner, pour être sûr que tes students ne se blessent pas. Donc, ça te donne vraiment une
vue 360.
Une vue 360 de, OK, qu'est-ce que c'est? Comment le pratiquer de façon safe? Comment l'enseigner de façon safe? Et ça, c'est vraiment juste, on va dire, les basiques, quoi. Et après, tu fais ta pratique, tu peux faire d'autres trainings pour être prof, tu peux enseigner de la façon, enfin, le type de yoga que tu veux, de la façon que tu veux.
Donc 200 heures en 20 jours, quoi, grosso modo.
250 en plus, parce que j'avais pris un truc extra. Non, mais c'était franchement dur. Et puis moi, j'ai fait pas mal de sport, mais j'étais pas souple du tout, quoi. Et j'avais fait même pas 10 heures de yoga dans ma vie, quoi. Donc, même les trucs simples, j'avais aucune idée de ce que
c'était. Et les gens qui arrivaient dans cette formation, ils avaient déjà fait plein de yoga avant? Ou ils étaient plutôt comme toi en mode...
La plupart avaient quand même, genre... Aucun avait fait aussi peu, quoi, ça, c'est sûr. Il y en avait qui avaient déjà fait les 200 et qui étaient sur leur voie. Parce qu'après les 200, tu peux faire les 500. Donc, aussi, tu construis ton parcours comme tu veux. Mais la plupart avaient déjà, genre, pratiqué pas mal. Et quand tu dédies un mois, c'est tous les jours, hein, c'est 7 jours par semaine, de 5h30 du mat à 8h du soir. En général, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Ouais. Si t'es une année militaire et que t'en mets, allez, go. Mais non, c'était incroyable. Je pense que j'ai vraiment compris ce que c'était le yoga. Et après, c'est vrai qu'en arrivant là, une des raisons pour lesquelles j'ai bougé, c'était... c'était le surf, quoi. Je ne veux pas retourner à la Défense faire du Transaction Services, mais je peux aller à Sydney si je surfe le matin et qu'après je fais du Transaction Services, ça...
Et tu fais du yoga le soir ou là...
Voilà, ça va aller. C'est pas non plus le rêve, mais si j'ai mon surf, ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'avec plus le temps passe et plus le surf, j'adore. Je trouve ça super fun et j'en fais toujours. Mais plus le yoga, ouais, prend le dessus sur mon côté santé et développement.
Et ça ressemble à quoi alors ton équipe de vie en Australie? J'en parle régulièrement sur la chaîne, du fait que c'est quand même un pays qui met l'équilibre de vie, qui est en avant, qui l'accepte chez les personnes, même dans le monde du travail. On finit plus tôt qu'en France typiquement. Mais pour toi, ça ressemble à quoi une journée typique?
Alors déjà, ça a pas mal changé parce que mes 7 ans, il s'est passé à chaque fois, c'était... Mais on va dire sur les derniers 2 ans, donc depuis que j'ai bougé en commercial finance, c'est-à-dire que je ne bosse plus 14 heures par jour et je peux bosser 3 jours de la maison. Genre, en fait, j'ai plus de temps pour moi. C'est, on va dire, ouais, quasiment tous les jours yoga. 5 à 7 fois par semaine, j'avoue que ça c'est... Puis j'ai un studio qui a 200 mètres, qui a des cours tout le temps, c'est chauffé et tout, donc je suis rodé, quoi. Il y a des cours qui commencent à 6h du mat, donc j'ai aucune excuse pour pas en faire.
C'est pas un fake, hein. Il y a des fois je viens à 6h du mat parce qu'il habite à côté de la plage pour surfer là où il habite. Je lui dis viens, on va surfer, il fait le cours de yoga. Donc voilà, c'est vraiment 6h, 7h pour bien commencer la journée.
Ouais, c'est... Ou je peux faire un peu plus tard, ou au midi 2, ou après. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie de mon équilibre. Et plus le surf, mais c'est un peu plus, peut-être 2-3 fois par semaine. Ça dépend des saisons. En hiver un peu plus, en été un peu moins.
Et comment tu le vois, le yoga justement? Ce qui m'intéressait avec toi, c'est que tu viens quand même d'un background, tu as fait des études d'ingénieur, donc tu es très rationnel. On peut entendre, on peut avoir des a priori sur le yoga. Par exemple, si tu me parles du yoga, bon, maintenant je suis un peu plus au courant de ce que c'est, de quel type de pratique il peut y avoir. Mais il y a aussi des mythes où on peut avoir des a priori de... Il n'y a pas beaucoup de mysticisme avec ça,
le côté fluffy. Hein.
Le côté, le yoga qui permet d'aligner tes chakras et de savoir qui tu es vraiment. Comment est-ce que tu vois justement le yoga avec ce background rationnel, un peu scientifique quand même? Qu'est-ce que tu as pu voir qui était vrai? Quels sont les mythes qui ne sont pas forcément vrais d'ailleurs?
Je ne sais pas s'il y a des mythes, mais ce qui est sûr, c'est que ta pratique du yoga, tu peux en faire absolument ce que tu veux. D'un extrême qui est cristaux, karma, aligne tes chakras et tout ça, et il y a des gens qui sont à fond là-dedans et très bien. Et l'autre extrême, c'est purement physique. Je fais ça juste pour me renforcer, pour être plus souple. Et après, entre les deux, ben, tu fais ton mix, quoi. Et encore une fois, genre, ça fait 7 ans que je pratique et ma pratique évolue et change un petit peu à chaque fois, quoi. Et même chaque jour, je sais qu'il y a des fois, j'ai juste envie de me prendre un bon coup physiquement et de me renforcer. Et certaines fois, c'est plus... non, j'ai juste envie de me calmer là et de prendre une heure pour moi sur un mat, dans une salle chaude avec rien qu'une personne qui me dit quoi faire. Et genre, donc, ouais, je pense pas qu'il y ait de mythe, je pense que chacun a sa pratique.
Et comment est-ce qu'elle a évolué la tienne alors? Parce que tu as dit ça a évolué au fil et à mesure des années.
Ouais, je pense qu'au début c'était beaucoup plus physique. Je trouve ça marrant, j'étais super stiff, genre pas souple du tout. Et c'est un peu pour la même raison pour laquelle j'ai fait la vente de parfums. C'est parce que j'étais en mode, mais c'est pas du tout moi. C'est super dur pour moi d'être avenant et d'aller typiquement vendre des parfums dans la rue. Et j'ai eu un peu ce même challenge avec le yoga. C'est en mode, c'est pas pour moi, quoi. J'ai pas un corps en fait adapté au yoga. Et en fait, ce challenge de me dire, je vais me faire un truc difficile, ça m'a plu. Et donc, je pense qu'au début, c'était vraiment... plus mes premières années, c'était très physique, quoi. C'était vraiment... je vais me battre contre mon corps et comprendre mes alignements et comprendre comment je peux m'étirer et me renforcer et tenir sur mes mains et machin. Et je pense que plus ça évolue et moins je fais ça comme ça, plus je trouve que c'est un outil. Enfin, moi, j'utilise ça vraiment comme un outil, quoi. Et mon outil dépend, enfin, en fonction de ma semaine ou de mon mois ou de mon année, je vais l'utiliser différemment. Mais je l'utilise vraiment comme un outil genre d'exploration, de fun et de croissance. Au niveau physique, mental et même un peu spirituel. Ça veut dire que... Bon, tu comprends vraiment avec le yoga que le corps et l'esprit, c'est extrêmement lié. Et je pense qu'au yoga, tu travailles vraiment là-dessus, quoi. Tu vas challenger ton esprit à travers ton corps. Et je sais que ça peut paraître un peu « wow » quand on parle comme ça, mais en fait, c'est juste... C'est à peu près pareil qu'avoir un workout vraiment intense, quoi. Tu dois... Ton corps, il va jamais abandonner, quoi. Ton corps, il abandonne 1000 ans avant que ton esprit... abandonne. Oui. Donc ce sera toujours ton esprit qui va dire ok, stop. Et c'est juste une des choses sur lesquelles tu peux travailler avec le yoga, quoi. T'apprends à t'écouter et t'apprends à te regarder et à t'analyser. Ce que tu fais, parce que souvent tu as des réactions qui sont assez impulsives. Enfin, même 90% de nos réactions, on n'y pense pas trop. Tu vois, on pose une question, tu dis ton truc. Tu n'es pas là à essayer d'analyser et vraiment de comprendre. Et je pense que le yoga, par sa simplicité, tu es juste dans une salle, sur un tapis, à faire des mouvements coordonnés avec ta respiration. Et c'est tellement simple que tu as le temps, en fait, de t'observer et de te comprendre et de choisir. Est-ce que quand tu es challengé, tu veux pousser? Est-ce que tu veux regarder les autres et faire comme eux? Est-ce que tu abandonnes? Et en fait, voilà, ça, c'est une façon de découvrir ton corps, de découvrir ton mental et d'une certaine façon aussi de découvrir ta spiritualité, je trouve. Okay. Donc, c'est comme ça que je l'expérimente. Mais chacun a son expérience du yoga et sa pratique. Et y a pas, je pense pas qu'il y ait de mauvaise pratique du yoga. Mais ouais, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé. Quand j'ai commencé à en faire, j'aurais jamais pensé que c'était pour moi, que j'aurais accroché ou n'importe quoi. Mais je pense que le challenge physique combiné au mental, combiné à des tas d'autres choses, on fait waouh, ça, c'est ouf.
Et c'est marrant, tu as dit plusieurs fois pendant la discussion qu'il y a des choses que tu as faites parce que c'était pas du tout toi, ou que c'était difficile et challengeant. C'est marrant parce que c'est pas du tout usuel. Enfin, j'entends rarement des gens dire ça. Ça vient de quelque part. Enfin, tu as toujours été comme ça en disant tiens, il y a des choses que c'est pas moi donc je veux le faire. C'est bizarre, non?
Ouais. Y a plusieurs trucs. Je pense que l'année en Asie, j'ai réalisé que. Parce que j'ai passé des semaines et des semaines sur des super plages, tu vois. Enfin, des trucs un peu en mode vacances avec des soirées incroyables. Mais assez rapidement, je pense que j'ai réalisé que ça n'aurait pas d'impact dans ma vie, tu vois. Et puis même quand tu rentres et que tu le racontes, tu fais des soirées de ouf. Bon, c'est bien, mais tu vois, vraiment ce qui a eu un impact, et je pense que je l'ai découvert assez tôt en Asie, c'est passer une semaine avec des moines. Enseigner l'anglais à des enfants en Inde qui n'ont rien à voir avec toi. Devenir prof de yoga. En fait, faire toutes ces choses qui sont en mode, c'est pas vraiment moi, c'est un peu fou, mais allons-y. Parce que ça peut être quelque chose d'incroyable. Ça peut être un flop aussi. J'ai fait des expériences qui étaient des flops et j'en ai pas, que je gardais pas. Mais par exemple, le yoga n'a clairement pas été un flop. Et c'était pas du tout moi. Enfin, il y a 8 ans, ma famille, ils rigolaient quand ils disaient, oh, tu fais du yoga en Thaïlande, tu as pété un câble. Après, quand je leur ai dit, bah non, je vais passer le diplôme de prof, c'était genre, enfin, c'était pas du tout l'image qu'ils avaient de moi et que j'avais de moi-même.
Ouais, c'est peut-être un peu aussi que quand tu restes chez toi et que tu es dans un endroit, un cocon un peu, c'est une sorte de zone de confort, mais à la fois aussi culturelle et en termes d'activité, puisque tu n'avais jamais été exposé. C'est pas comme si le yoga, tu en avais fait avant et tu savais que tu n'aimais pas ou que c'était nul. Non, c'est juste que tu ne connaissais pas et tu avais des a priori. En fait, tu as fait des choses qui n'étaient pas toi, mais parce que tu n'avais jamais testé, en fait.
Ouais.
Et donc, tu allais voir est-ce que c'est toi ou pas.
Et tester ces trucs et travailler sur tes faiblesses, c'était un des trucs, enfin une des raisons pour lesquelles j'ai fait le yoga et même les parfums. Puis j'étais, surtout mes 6 premiers mois en Australie, j'étais à fond, j'ai découvert le développement personnel, tu sais. Jay Shetty, Tony Robbins, tout ce truc-là qu'on ne t'apprend pas vraiment, en fait. Et du coup, j'étais en mode, non, il faut travailler dur, travailler sur tes weaknesses, essaye, te laisse pas, machin. Et puis j'ai lu 2-3 livres, et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui disent il faudrait que tout le monde travaille en sales au moins 6 mois ou 12 mois dans sa vie, peu importe ce que tu fasses, parce que ça t'apprend énormément de choses sur la communication, sur c'est une sorte de science humaine, quoi.
Tout à fait, ouais. Ouais.
Et du coup, j'étais en mode, de toute façon, je suis en Australie. Voilà, j'ai déjà fait 1 an et demi de voyage, de trucs, donc j'étais en mode, fais encore 6 mois. Puis en plus, ça va renforcer mon anglais, puis en plus, ça va renforcer des tas de choses, ma confiance en moi, donc j'étais en mode, go. Mais c'était clairement pas moi il y a 7 ans, quoi, vendre des parfums. Et toutes ces choses, à chaque fois que j'ai fait un peu de façon où je pensais pas que ça allait être aligné, c'est vrai que certaines fois, ça marche pas, mais d'autres fois, ça marche super bien. Et voilà, et c'est cool de tenter ces choses-là. Temps en temps pour découvrir d'autres choses.
Tant que tu es jeune, surtout, il faut y aller à fond. Je pense que c'est le plus de choses pour justement se découvrir soi aussi. Il y a des choses qu'on pense ne pas être soi, mais qui peuvent l'être totalement. Est-ce que pour quelqu'un qui chercherait à se découvrir ou qui cherche à voyager, peut-être en Australie, tu aurais un dernier conseil à donner à un jeune qui cherche à se découvrir?
Disons, tu vas en Australie 1 an et tu cherches à te découvrir. Fais les choses. Si tu vas en Australie, c'est te prends pas un petit taf posé dans un café. Tu peux et tu vas faire des sous et tu auras ton expérience australienne, mais va faire 2 mois de ferme, vends des parfums ou quoi que ce soit dans la rue, ou tu as même des charities, des associations caritatives où tu peux vendre des trucs pareil dans la rue. En fait, fais des trucs qui vont te pousser, quoi.
Après, il peut aussi faire 1 mois de café, typiquement. Parce que c'est
typiquement, faire 1 mois de café, très bien, de resto. Mais en 5 jours, tu as compris à peu près le deal. Donc, si tu vas jusqu'en Australie, en anglais, on dit « you might as well », c'est-à-dire… Tant qu'à faire, fais des trucs. Et puis tente 3-4 trucs qui sont un peu fous. Peut-être que la moitié, ce sera pas top. Mais l'autre moitié, ça va te booster et te propulser. Ça vaudra le coup, quoi. Même si tu wastes, il y a 6 mois où tu es en mode, c'était des conneries. Les 6 mois sur lesquels t'as fait un truc positif aura un impact énorme, quoi.
Je trouve que ces mots « you might as well », très bon pour… On finira là-dessus. Voilà. Si vous venez en Australie, « you might as well ».«
You might as well », d'où ça.
Merci, Augustin.
De rien, Thomas.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Discussion d'ingénieurs. Si vous êtes sur YouTube, il y a un autre épisode qui s'affiche quelque part à l'écran. Je vous y retrouve. Et dans tous les cas, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.